Fidèles auditeurs, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour. Merci de nous suivre partout où vous êtes, en République démocratique du Congo, même en dehors de nos frontières. Nous parlons aujourd'hui de la différence entre une affaire civile et une affaire pénale. Quelle est la différence qui existe entre les deux? Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, est l'invité de Capi Service. Maître, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien.
Merci.
Des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Ça s'est passé près de chez vous, une rubrique qui vous donne l'opportunité de partager dans cette émission ce qui se passe dans votre milieu de vie, dans votre quartier, des choses qui énervent, des choses qui vous réjouissent. Eh bien, vous pouvez les partager avec les autres en appelant au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde, Marcel Ngombo assure la coordination et la réalisation de cette émission que présente Jody Daniel Keshama sous la supervision d'Etina Salama. Excellente condition d'écoute.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Bien, quelle est la différence entre une affaire civile et une affaire pénale? Eh bien, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui dans le magazine Okapi Service. D'après, dans le domaine judiciaire, on entend souvent parler d'affaires civiles, affaires pénales. Et selon qu'une affaire est civile ou pénale, il existe des juridictions compétentes pour porter plainte. Eh bien, nous allons en savoir plus au cours de cette émission avec notre invité. Il s'agit de Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Maître, on parle des affaires civiles, une affaire pénale. Eh bien, dites-nous, quelle est la différence entre ces deux types d'affaires?
A priori, la différence réside dans la nature des faits qui saisissent le juge, mais aussi du régime juridique applicable. Mmh. Pour ce qui est des affaires civiles, on pourrait simplement dire que on parle d'une affaire civile lorsque ce sont des intérêts des particuliers qui entrent en jeu, qui sont revendiqués pour être réparés au titre de préjudice subi par une personne qui revendiquerait à être réparée. Mais par contre, on parle des affaires pénales lorsque les faits qui sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire, de la police ou du magistrat, du parquet ou du juge carrément, lorsque ces faits sont constitutifs d'incriminations prévues et punies par la loi pénale, si je devais ainsi dire, par le code pénal, qu'il s'agisse du code pénal ordinaire, qu'il s'agisse du code pénal militaire ou des autres dispositions complémentaires à ces deux codes et qui sont parsemées dans plusieurs autres textes de loi, notamment des codes de la famille pour ce qui est du trouble à l'ordre familial ou des autres textes comme des infractions en matière économique, etc.
Voilà, donc la différence réside à quel niveau, concrètement?
La différence fondamentale réside dans le titulaire du droit à revendiquer. Mmh. En matière civile, le titulaire qui revendique une réparation, qui revendique le droit, c'est un particulier. Alors que en matière pénale, c'est l'État qui s'insurge contre les faits qui sont qui portent trouble à l'ordre public et qui sont donc prévus et punis par le code pénal. En ce moment-là, le poursuivant au niveau du pénal, c'est le parquet, c'est d'abord le parquet pour ce qui est des effets liés à l'infraction, même si par la suite la partie lésée par l'infraction peut venir devant le même juge revendiquer des réparations civiles pour ce qui est des préjudices qu'il aurait subi à la suite de la commission de cette infraction. Donc, comme je le disais tout de suite, le titulaire celui qui doit se revendiquer le droit de porter l'action à la connaissance du juge,
oui,
au civil, c'est le particulier lorsque il ne poursuit que des réparations civiles pour les préjudices qu'il a subis, alors qu'au pénal, c'est l'État qui poursuit à travers son organe poursuivant, qui est le parquet.
Voilà, donc c'est là se trouve la différence entre les deux concepts. Alors, un exemple
d'une affaire. Par-delà ces aspects liés à, au titulaire qui se revendique le droit de poursuivre ou de réparation, il y a aussi la nature de la peine. Et là, je parlais du régime applicable aux faits et aux actes qui sont poursuivis, soit au titre de faits civils, soit au titre de pénal. C'est tous les actes qui portent, qui engendrent des actions civiles, ne peuvent être clôturés que par le paiement des dommages et intérêts. Et on appelle ça justement des réparations civiles à l'endroit de la personne qui prouve devant le juge que le fait générateur du préjudice est effectivement préjudiciable à son endroit et qu'il a engendré le dommage, et il doit pouvoir plutôt établir le lien de causalité entre le fait générateur du préjudice et le préjudice qu'il a causé. Alors que pour les faits pénaux, ils ne sont punis que par des peines prévues par la loi. Il peut s'agir de la peine privative de liberté, la peine de servitude pénale, tout comme il peut s'agir des amendes pénales. Il y a d'autres peines évidemment alternatives prévues par le législateur pour ce qui est des infractions. Donc je veux dire, pour ce qui est des infractions, il y a des peines qui sont prévues de manière stricte et claire par le législateur, alors qu'en matière de réparation civile, le juge peut aller jusqu'au prononcé d'une réparation d'un franc symbolique, par exemple, à la demande de la partie qui a porté la cause devant lui.
Alors, mettre un exemple des faits qui sont traités en affaire civile.
Par exemple, le fait de signer un contrat de prêt avec quelqu'un. Et que ce contrat, s'il ne viendrait pas à être exécuté du fait de la faute d'une des parties signataires, donnerait droit à la partie lésée à revendiquer des réparations civiles, des dommages et intérêts pour le préjudice que cette inexécution ou cette mauvaise exécution engendrerait à son endroit.
Par exemple, alors, quelqu'un qui prend un crédit à la banque et à l'échéance qui ne retourne pas, la banque peut aller en affaire civile.
C'est une affaire purement civile parce qu'il n'y a que les intérêts civils qui entrent en jeu. Aucun intérêt de l'État n'est corroyé dans ce cadre-là. Donc c'est un investisseur avec un emprunteur qui se mettent ensemble et qui signent un contrat et qui se rendent des services mutuels et qui mettent en place leur régime sur leurs droits et sur leurs obligations respectives.
Voilà, donc d'autres exemples.
Alors,
qui sont traités
en matière pénale,
civile,
le fait, par exemple, de porter un coup sur un individu constitue l'infraction des coups et blessures. En ce moment-là, l'organe poursuivant de l'État peut être saisi pour poursuivre la personne à charge de qui cette infraction a été mise. Et donc, il faut chaque fois faire la différence entre les faits qui sont purement civil, ça veut dire qui engage les intérêts des personnes particulières, et les faits qui sont pénaux, qui engagent plutôt l'État à travers son organe poursuivant, dans le cadre du maintien de l'ordre public, dans le cadre du maintien de la salubrité publique, dans le maintien dans le cadre du maintien de la tranquillité publique. Et c'est ça les trois pouvoirs particuliers qu'a l'État pour maintenir de manière générale ce qu'on appellerait l'ordre public.
Voilà. D'autres exemples des affaires civiles et pénales. Des exemples des faits qu'on rencontre souvent dans la société, maître.
Les faits les plus courants, par exemple, toutes les infractions de violence sexuelle ne peuvent donner lieu qu'à des condamnations pénales parce que c'est des infractions. Le vol, l'extorsion, l'escroquerie, le détournement, que ce soit des deniers publics ou des deniers privés, tout ça constitue des infractions. Par contre, toutes les matières contractuelles relèvent du civil. Et les parties qui sont liées au contrat ont chacune la possibilité de revendiquer des réparations civiles et donc des dommages et intérêts chaque fois qu'il y aurait inexécution, mauvaise exécution des clauses du contrat de la part de l'une des parties contractantes. Et donc, très simplement, disons que Il a été conçu de manière plutôt manichéenne, cette division, mais qui n'est plus de plus en plus claire aujourd'hui, parce que de plus en plus on a des dispositions pénales qui logent même dans les codes qui sont généralement à caractère civil, comme le code commercial aujourd'hui. Il y a des infractions en matière économique et qui font que entre le civil et le pénal, la distinction devient de moins en moins clarifiée sur certaines matières.
Lesquelles, par exemple?
Alors que, par exemple, dans le cadre d'un contrat d'affaires, une partie, les parties s'engageraient à telle prestation, elles violeraient les lois impératives en matière commerciale si jamais leur prestation, si jamais leur exécution parvenait à violer ces dispositions-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a érigé justement un certain nombre d'infractions, que ce soit en matière fiscale, que ce soit en matière économique de manière générale, qui relèvent généralement d'ailleurs du domaine contractuel, dans le domaine environnemental. Par exemple, il y a des dispositions pénales et il y a des dispositions de la loi qui érigent en infraction un certain nombre de faits et de gestes qui portent atteinte à l'environnement.
Bien, on va accueillir Jonas en ligne depuis la ville de Kananga. Jonas, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup de la parole. J'ai une question que je vais illustrer avec deux exemples. Est-ce qu'une infraction civile peut devenir pénale ou vice-versa? Les illustrations sont les suivantes. J'entends souvent les gens dire qu'une dette n'est pas une infraction pénale. Elle peut se régler à l'amiable. Bon, mais à un moment donné, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va en prison à cause d'une dette. Alors, à ce moment-là, cette infraction est-elle pénale ou civile? Une autre préoccupation, vous allez voir à travers les différentes sociétés congolaises, le cas des viols. Nous pensons que les viols, ça relève du pénal. Mais, par exemple, les parents de la victime ont porté plainte, mais après un temps, on dit non, nous allons régler à l'amiable. Et ça cesse d'être pénal. On peut dire que ça devient civil ou comment comprendre ça? Ce sont les deux préoccupations que j'avais. Merci beaucoup.
Bien, merci Jonas de Kananga. Nous avons également en ligne Félix qui nous a... Félix n'est plus en ligne. Voilà, maître, vous avez la parole.
D'abord, je voudrais préciser sur le plan de concept qu'il n'y a pas d'infraction civile ni d'infraction pénale. Toutes les infractions relèvent du domaine pénal. Les infractions sont des faits bien précis, bien décrits, du point de vue de leurs éléments constitutifs et bien assortis des peines prévues par le législateur de toutes les dispositions pénales qui sont contenues à la fois dans le code pénal ordinaire, dans le code pénal militaire et dans les autres lois qui contiennent des dispositions pénales particulières. Donc, du point de vue du concept, il n'existe pas d'infraction civile. Par contre, si je dois revenir à votre question, lorsque quelqu'un a contracté une dette, cette dette relève du domaine civil parce qu'il n'engage l'État en rien.
Mais pourquoi cette personne peut se retrouver en prison pour une affaire des dettes?
Ça, c'est par abus de pouvoir de l'organe poursuivant. Parce que la loi du 20 juillet 1973, qui a été modifiée jusqu'en 1980, et qui porte le régime général de biens, le régime général de foncier immobilier et de sûreté, dit très clairement que le patrimoine présent et à venir de chaque individu constitue le gage commun de tous ses créanciers. Et donc, une personne ne peut pas aller en prison tant qu'elle est censée avoir des biens sur lesquels les créanciers, ses créanciers, ceux à qui il doit, elle doit plutôt, peuvent venir demander paiement, y compris par la saisie ou par la réalisation, carrément la vente des biens, oui, jusqu'à concurrence de ce qui est dû. Donc, il n'est pas admis par la loi interdit formellement qu'il y ait une prison pour la dette. Par contre, et on pourrait s'y méprendre, les gens ont l'habitude de prendre de l'argent, par exemple, à titre, pour, de prendre de l'argent pour le remettre à quelqu'un d'autre, par exemple. Vous seriez mandataire en ce moment-là. Mmh. Et le fait pour quelqu'un de prendre l'argent d'autrui et d'aller à charge de le remettre à quelqu'un d'autre ou d'en faire un usage bien précis, mais de l'utiliser dans un sens qui n'était pas prévu, constitue une infraction d'escroquerie. En ce moment-là, les gens ne se réfugieraient pas facilement devant une question de dette, même si la personne qui a escroqué s'engage à payer ultérieurement, ça devient plus ou moins une dette, mais à la base, il y a eu un autre contrat, le contrat de prendre cet argent avec charge d'en faire un usage particulier ou de le remettre à quelqu'un d'autre.
Oui.
Même si ultérieurement les parties conviennent que celui qui a abusé va remettre cet argent et que cela devient une dette, à la base il y a une infraction d'escroquerie. Et donc il faut faire chaque fois la différence entre l'accord qui a présidé à l'existence du fait générateur de la plainte ultérieure. Il ne suffit pas de dire simplement qu'il y a eu une dette pour qu'elle soit une dette, parce que cette dette qui est constatée ultérieurement peut avoir été plutôt autre chose dans l'accord initial des parties. Pour ce qui est des infractions de violence sexuelle, la loi interdit absolument toute possibilité de transaction amiable. Et la loi ne prévoit d'ailleurs que la peine de prison. C'est vrai qu'on réfléchit aujourd'hui sur les possibilités de réformer ces lois, d'autant plus que la prison chez nous affiche énormément de faiblesses et ne permet pas d'espérer que la personne provenant de l'exécution de la peine en prison est devenue un citoyen honnête, capable de...
Parce que la prison ne joue plus son rôle.
La prison ne joue pas son
rôle. Le centre de rééducation.
Parce que dans les principes minima qui régissent le domaine de la détention et qui ont été élaborés par les Nations Unies, auxquels notre pays est parti, élabore des obligations à charge de l'État dans le cas du fonctionnement harmonieux des prisons. La prison doit avoir un système de formation, un système de sport, en tout cas une manière de préparer toutes les activités qui aideraient le prisonnier à être préparé à assumer ses charges de bon citoyen reconverti au sortir de la prison. Donc, on réfléchit sur la possibilité de réformer ces deux lois de 2006 qui prévoient que la peine de prison et les réparations civiles des victimes plutôt, pour que effectivement elles soient effectives et que les victimes surtout soient réparées, parce que ça c'est le plus grand problème dans ce pays. On a bien condamné les bourreaux, les violeurs, mais à la fin il n'y a aucune réparation qui est prévue pour les victimes. Mmh. Et donc il faut savoir qu'à ce jour, aucune transaction amiable n'est possible en matière d'infraction de violence sexuelle, même si des réflexions sont en train d'être conduites sur ces questions-là, pour que, recourant à des us et coutumes, à des pratiques de notre société, nous puissions envisager des réparations alternatives et des peines alternatives à l'endroit des violeurs, mais des peines qui soient beaucoup plus correctives et plus significatives pour la société et en faveur des victimes surtout.
On va accueillir Manda de Kalemi et Kachai de Kanyoka. Manda, bonjour.
Manda. Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kalemi.
En fait, je n'aurai pas beaucoup de commentaires, mais par contre, je vais répondre sur ce qui a été déjà dit par mes prédécesseurs. Hein.
Oui.
En fait, ici, je peux avoir un cas, je ne sais pas si c'est un cas vivant. Hein. Il y a un monsieur qui travaillait dans une petite ONG ici à Kalemi, mais bon... Il a été employé pendant 6 mois. Et après, on lui avait licencié. Il n'a pas reçu même son décompte final. Mais que peut-on dire de ces genres de faits? Est-ce que nous pouvons recourir à la matière dont notre invité avait parlé là-bas de civil, bien c'est purement pénal?
D'accord, merci. Kachai, vous êtes à Kanyoka, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup. Je voulais demander quelques précisions à l'invité sur certains cas que j'ai constatés dans nos milieux. Et je lisais un petit bouquin où on avait écrit qu'il y a certaines infractions pour lesquelles le parquet ne peut pas se saisir de ces infractions-là sans qu'il y ait une plainte préalable. On a cité le cas de l'adultère. Je voulais demander à l'invité, c'est quoi la plainte préalable? Quelles sont les mesures prises pour que le juge ou soit le ministère, l'officier du ministère public puisse se saisir de telles infractions. De deux, c'est dans le cadre de des conflits des deux fonds contigus. Les gens se disputent des limites parcellaires, ils ne savent pas mettre des bornes. L'un d'eux s'engage à aller accuser l'autre en justice, en exigeant à ce que son protagoniste contribue à l'action en bornage. Alors, je voulais au moins aussi demander à l'invité par rapport à cette affaire-là civile, parce qu'il a parlé des affaires pénales et des affaires civiles. Est-ce qu'il exigeait à l'une des parties de contribuer toujours à l'action en bornage lorsque cette action-là est signifiée? Si elle n'a pas de fonds pour contribuer, quelle sera la suite et quelles sont les conséquences qui pourront en découler? Merci beaucoup.
Bien. Maître Charles, vous avez la parole.
Merci. Pour ce qui est du refus de paiement du décompte final, en matière de travail, on est essentiellement dans le domaine civil. Il s'agit pour la plupart de cas des intérêts privés qui rentrent en jeu. Un employeur qui engage un employé avec des droits et des obligations clairement spécifiés dans le contrat pour chacune des parties. Que ce soit les agents de l'État qui sont sous statut contractuel comme des agents qui travaillent pour des privés dans le cadre d'un contrat. Et donc, a priori, toutes les matières, toutes les contestations qui viendraient dans le cadre d'un contrat de travail seront soumises au juge civil. Mais bien évidemment, elles seront d'abord examinées en procédure de conciliation devant l'inspecteur de travail qui a l'obligation de concilier d'abord les parties avant que celles-ci saisissent le juge de jugement. Ça, c'est une procédure qui est prévue par la loi et elle est obligatoire.
Mais pourquoi ça ne rentrerait pas dans le cadre d'une affaire pénale?
Parce qu'il n'y a aucun intérêt de l'État qui entre en jeu en ce moment-là. Aucun intérêt. Alors, pour revenir à la deuxième question de l'intervenant de tout à l'heure, les procédures préalables avant toute plainte en justice, ce sont des procédures qui sont prévues par le législateur pour sauvegarder l'intégrité de la famille pour ce qui est de l'adultère, mais aussi pour sauvegarder les droits fondamentaux libres à la personne qui veut les défendre lui-même, notamment pour ce qui est des offenses à chef de l'État. Il faut qu'il y ait une plainte préalable du chef de l'État lui-même avant que le juge, le magistrat, l'organe poursuivant de l'État se saisisse de ces faits. Il ne peut pas se saisir d'office parce que c'est des matières que le législateur a considérées qui relèvent de l'appréciation personnel de la personne offensée. En matière d'adultère, puisque l'article 549 du Code de la famille prévoit que le divorce ne peut provenir que de la destruction irrémédiable du lien conjugal, les conjoints peuvent considérer que l'adultère de l'un ou de l'autre ne détruit pas leur lien conjugal et donc passer outre et ne pas saisir le juge. Mais lorsque une des parties, un des conjoints considère que l'adultère de son conjoint porte gravement atteinte à leur lien conjugal et que la vie de communauté n'est plus possible d'être continuée, en ce moment-là, elle peut porter sa plainte devant le juge. Et ça, c'est simplement des mécanismes plus ou moins tampons pour sauvegarder l'unité de la famille considérée par la Constitution comme le noyau principal de constitution de notre société. Donc, c'est une question de garantir la stabilité et l'union de la famille. La question sur les
conflits de limites parcellaires, tout ça.
Oui, a priori, tout ce qui relève du foncier est civil. Ça, c'est a priori. Mais il faut savoir que le déplacement ou l'enlèvement des bornes constituent des infractions. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui fixe les bornes en considérant les limites sur lesquelles sont séparés les deux fonds. Et donc, le déplacement de bornes ou tout ce qui touche justement à fausser l'information pour ce qui est des dimensionnements des fonds tels que l'a prévu l'État constitue des infractions. Alors, la participation au rebornage de la du fonds, ça ce n'est pas dit, ça c'est pas une obligation. Mmh. Et donc la personne plutôt qui est victime à ce déplacement de borne peut saisir l'autorité poursuivante pour que la personne qui a commis cette infraction soit poursuivie et qu'éventuellement, en ce moment-là, elle soit condamnée aussi à payer des dommages-intérêts sur base desquels il pourrait refaire son bornage si jamais il est établi que cette perturbation de bornage a créé quelques préjudices à son encontre.
Bien, on va accueillir Jules Kazadi de Lubumbashi et Michel Kanda de Mbujimayi. Jules, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité. Sans plus tarder, j'ai trois préoccupations pour notre invité.
Oui.
La première, c'est ici, ça a chauffé, ici à Lubumbashi, c'était terrible. Alors, les gens, parce que nous savons tous que les droits de manifestation est dans notre constitution. Quand les gens marchent pacifiquement, et qu'il y a la police qui commence à tirer sur la foule. Alors, quelle la peine ou les sanctions infligées par les responsables de ceux qui ont été envoyés dans cette foule-là. Et la deuxième, c'est en cas de viol, est-ce que l'invité peut nous dire notre justice a des appareils qui peuvent détecter si réellement il y a viol? Parce que ici on a constaté il y a parfois des gens qui mentent, qui font un scénario pour que non qu'on puisse, parce qu'ils voient que non ces messieurs touchent quelque chose, de l'argent, ainsi de suite, ils commencent à monter des coups. Et alors quand la justice trouve que non, la personne n'est pas coupable, quelle est la sanction que les plaignants doivent avoir? Et un jour, dans notre prison, M. Jody, ce n'est pas le centre de rééducation, donc c'est un centre de destruction. Parce que les gens qui sortent de la prison, ce ne sont pas les gens normaux, donc les gens modèles. Donc quand ils reviennent dans la société, ils refont des dégâts. Donc, ils sont devenus petits. Donc, je ne comprends pas ce qu'ils font dans les prisons. Alors, il faut améliorer tout. Il faut faire un toilettage, monsieur Jody.
D'accord. Je vous remercie. Merci, Jules Kazadi de Lubumbashi. Michel Kanda, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Kachama. Bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre préoccupation, monsieur?
Merci. J'ai deux faits que je vais poser à notre invité et puis une question que je vais ajouter là-dessus. Mes deux premiers faits sont ceci. Il y a une de mes sœurs qui travaille dans un organisme. Alors, elle avait passé un contrat de 2 mois, le mois de novembre et de décembre. Arrivé au mois de janvier, on les a dit, on va vous rappeler. Alors, le chef qui devait les rappeler, les a rappelés avec un peu de retard et le contrat devait expirer dans 22 jours. Et on l'a appelée à 5 jours de la fin pour la faire signer un tel contrat pour qu'elle travaille 5 jours. J'aimerais demander, elle sera payée pour 5 jours ou elle sera payée pour tous les 22 jours parce qu'elle a signé un contrat de 22 jours. Mais le deuxième fait, c'est une de mes sœurs qui, son frère avait une dette avec une dame. Alors, à l'absence de ses frères qui avaient la dette, la dame est venue à la maison. Elle a fait des troubles, elle est entrée même jusque dans la chambre pour prendre une chaise et sortir avec. J'aimerais savoir cette personne qui est venue prendre la chaise à cause de sa dette et elle est entrée de force dans la chambre. Est-ce que c'est une infraction et c'est laquelle? Qu'est-ce qu'elle a commis et comment est-ce qu'elle a pu trancher cette situation? Alors, une troisième question que je voulais poser, c'est celle de savoir, selon la décision du président de la République, qui a dit qu'il faudra qu'on puisse fermer les cachots, les demi-apes, tout cela. J'aimerais un peu savoir quelle est la nature juridique de ces cachots-là et consorts que notre invité essaie un peu de nous aider. Merci.
Bien, merci. Glody Bouanganga nous appelle de Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Capitale, bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, je suis venu au sujet de l'invité qui a fait des spécificités. Je voulais juste poser une question pour savoir, parce qu'il y a certains problèmes à RDC par rapport au problème du viol. Est-ce qu'il y a un problème de viol? Si on est tout en famille, là c'est un problème civil ou encore un problème pénal. Je ne sais pas, c'est ça ma préoccupation pour aujourd'hui.
Merci. Maître Charles.
Il y a eu beaucoup de questions. Merci pour les auditeurs. Je vais commencer par celle qui touche au viol et en tout cas aux infractions de violence sexuelle et particulièrement au viol, parce qu'elles sont revenues de manière très récurrente. L'expertise ou des machines, je crois que là vous posez une question de l'efficacité de notre système judiciaire de manière générale, qui est malheureusement sous-équipé et sans infrastructure qui puisse lui permettre de travailler de manière optimale. C'est vrai que les réquisitions d'informations qui sont généralement envoyées aux médecins aux médecins publics, aux médecins de l'État. Et là encore, les formations médicales de l'État ne disposent pas non plus de l'expertise nécessaire ni des équipements et des infrastructures nécessaires pour assurer un bon examen et un bon diagnostic. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de condamnations, plus ou moins fantaisistes, et je parle d'expérience d'avocat, en matière de violence sexuelle, où le juge et personne d'autre n'a su, par exemple, établir l'âge exact de la victime. Les personnes ont été condamnées pour viol sur mineur, par exemple, dans un cas où j'ai été avocat, où la victime prétendait avoir 14 ans. Elle-même a déclaré à la police avoir 14 ans, sa maman a dit qu'elle avait 16 ans et son oncle est venu dire qu'il avait 17 ans, je crois. Et donc le juge n'ayant pas été capable d'établir avec clarté l'âge de la victime, il était en devoir de considérer qu'en cas de doute, le doute ne devrait profiter qu'à l'accusé. In dubio pro reo, comme on dit, c'est un principe général de droit. Et donc ce que nous pouvons souhaiter, c'est que le système de notre système institutionnel de justice s'améliore largement, notamment pour ces aspects techniques qui exige des expertises bien pointues, parce que lorsqu'on est poursuivi au pénal, on engage ce qu'on a le plus essentiel dans sa vie. Ça veut dire déjà sa propre vie, parce qu'on peut être condamné à mort, sa liberté et son patrimoine. Et donc ces aspects-là ne peuvent pas être pris à la légère. Il faut donc que la justice soit très outillée sur ces aspects-là pour que des enquêtes, lorsqu'elles sont menées, soient conduites par des experts qui ont justement le savoir et qui ont les infrastructures et les équipements nécessaires pour établir une vérité qui peut aider la justice à dire le droit et rien que le droit.
Voilà. Il y a eu également la question de Jules de Lubumbashi qui a parlé de la marche des étudiants. Dernièrement, vous avez suivi à Lubumbashi.
Oui, c'est vrai.
Il y a eu une marche.
Aujourd'hui, dans notre pays, il se pose une confusion très regrettable pour ce qui est du régime applicable aux manifestations publiques. Et c'est très regrettable que le régime passé n'ait pas pensé à clarifier cette situation en faisant voter notamment la loi sur les manifestations publiques dont le projet est là depuis des années et des années. Alors, en principe, du point de vue de la Constitution, une manifestation est libre d'être organisée dès que les organisateurs en ont tenu et informé l'autorité 48 heures avant. Malheureusement,
C'était un problème d'eau et d'électricité. Après, ça s'est transformé en problème de frais académiques. Et puis, la police est intervenue. Il y a eu même quelques morts.
Bon, il n'est pas interdit aux manifestants de modifier l'objet de leur manifestation en l'étendant à d'autres revendications qui pourraient s'avérer pertinentes pour eux. La question ici qui se pose, c'est celle de modalité d'organisation de manifestations publiques, parce qu'il n'existait pas une loi exigée par la Constitution pour justement donner ces modalités d'intervention. Ça fait justement que l'inexistence de cette loi donne lieu à des dérapages, y compris de la police, qui outrepasse même ses obligations d'encadrer la manifestation et va jusqu'à la répression.
Et là, dans ce cas, l'affaire s'est rapportée, ça devient une affaire pénale.
Lorsqu'il est clairement établi qu'il y a eu répression, qu'il y a eu déséquilibre dans les moyens utilisés par la police, police pour maîtriser les foules. La police, l'État peut être poursuivi au titre des civilement responsables, alors que les agents de la police qui auront utilisé de manière disproportionnée cette force seront poursuivis pénalement pour ça dépend, pour coups et blessures, s'ils ont donné des coups, pour meurtre, assassinat, etc., s'il s'ensuit mort d'homme. Et donc l'État, en tant que leur commettant, et ça c'est la responsabilité du commettant du fait de ses préposés prévus par les articles, l'article 259 du Code civil, livre 3, si je ne me trompe pas, et qui érige l'État en ce moment-là en responsable, qui doit réparer les dommages causés par les personnes qui sont ses préposés. Mais a priori, donc, nous sommes là dans une confusion qui est générée par le vide juridique sur les manifestations publiques et pour lequel j'appelle vivement l'actuel président de la République et le Parlement qui vient d'être investi à travailler ardemment pour que le pays soit doté d'une loi qui clarifie les modalités de toutes les manifestations publiques, parce qu'il n'y a pas démocratie sans expression libre, sans manifestation pacifique sur la voie publique. Oui. C'est un droit.
C'est un droit. Alors avant de répondre aux autres questions, on va accueillir trois autres auditeurs. Bodiko Zakari à Zongo, Shadrack Kankwende à Mbujimayi et l'ingénieur Mangoyo à Kinshasa. Zakari, Bodiko, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui et bonjour aussi à l'invité.
Nous parlons de la différence entre une affaire civile et une affaire pénale. Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci Jody Kachama pour m'avoir accordé la parole. Mais avant de parler, je dirais que aujourd'hui la population congolaise est un peu ignorante de beaucoup de choses, différente de beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que une affaire qui devait être arbitrée par la police est transférée si vite au parquet, au tribunal, c'est-à-dire la population ne comprend pas la différence qui existe entre les parquets, les tribunaux, la police et les peines. Et maintenant, je voulais poser la question à l'invité par rapport aux compétences qui est données aux affaires pénales. Est-ce qu'un peine peut arbitrer quelque chose qui est purement civil? Ça, c'est la première question. La deuxième question, que l'invité essaie un peu de m'expliquer la différence qui existe entre ces trois instances-là. La police, le tribunal et le parquet. Merci, Zakari Bodiko, depuis la ville de Zongo.
Bien, Shadrack de Mbujimayi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci. J'ai deux petites préoccupations. La première préoccupation est celle de savoir que l'invité me dise un peu par rapport à juge de paix, unique, quid. La deuxième préoccupation était celle de savoir le juge de la Cour constitutionnelle et le juge pénal du chef de l'État. Maintenant, je voulais savoir, en matière de divorce, quel est le juge naturel du chef de l'État? Voilà mes deux petites préoccupations. Je vous remercie.
Merci bien. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi.
On vous écoute.
J'ai une préoccupation que je voudrais partager avec l'autre invité. Hein. Alors, je voudrais un peu que notre invité nous clarifie la situation que je vais relater. Vous êtes dans un contrat crédit bail avec quelqu'un. Par exemple, vous avez cédé un véhicule dans un contrat crédit bail. Celui-ci rembourse. À un moment donné, il arrête, il ne rembourse pas. Il ne rembourse plus, il vend. Il n'a pas terminé de rembourser, il vend le véhicule en question. L'affaire arrive au niveau de la police. La police vous parle de deux matières, civile et pénale. Alors, je voudrais que notre invité clarifie un peu cette situation. Alors, en évoluant, il y a quelqu'un qui se pointe pour dire, écoutez, je vais garantir le reste de remboursement. Celui-ci signe un autre contrat, une décharge avec le bénéficiaire, mais avec le temps, lui aussi n'arrive pas à apurer ce remboursement-là. Alors, je voudrais que notre invité nous dise, à ce moment-là, qu'est-ce que le bénéficiaire, donc le plaignant, quelle position doit-il prendre. Parce qu'on dit souvent que les civils annulent le pénal. Qui nous explique un peu quelle est l'attitude que maintenant le plaignant doit adopter en ce moment-là?
Bien, merci. Ingénieur Mangoyo de Kinshasa, Maître Charles.
Je vais d'abord commencer par la question qui me semble la plus facile, celle de faire la différence entre la police, le parquet et le tribunal, si j'ai bien compris.
Voilà.
Alors, la police, c'est un service public de l'État par lequel, à travers lequel l'État maintient l'ordre public, la tranquillité publique, la salubrité publique. Alors, c'est la police qui recherche en tout moment des infractions aux lois et qui défère devant la justice, devant le parquet essentiellement, les personnes sur qui pèsent des charges sérieuses de culpabilité en matière d'infraction. Et là, je parle plutôt, plus spécifiquement, de la police judiciaire, qui est aujourd'hui une partie de la police de manière générale et qui est donc sous tutelle du ministre de l'Intérieur qui est en charge de la tutelle générale de toute la police. Pour ce qui est de la police en matière de circulation routière, ils sont aussi habilités à constater des contraventions routières qui sont en fait des infractions en matière routière, en matière de circulation sur la route. Il existe la police maritime, il existe autant de spécialités au sein de la police nationale selon qu'il y a justement des catégories, des faits qui puissent être constitutifs de contravention en matière de circulation sur la mer, sur la route, etc., ou de autres infractions généralement commissibles dans notre société. Mmh. Alors, le parquet a la main sur la police et particulièrement sur la police judiciaire, par laquelle justement elle enquête de manière beaucoup plus rapprochée, parce que la police est un organe qui doit être le plus en proximité possible avec la société pour faire en sorte que l'ordre public soit maintenu en tout moment. Et lorsque chaque fois l'ordre public est troublé, que cette police soit rapidement capable non seulement de mettre fin aux faits qui troublent l'ordre public, mais aussi de conduire des enquêtes préalables, c'est comme cela que le code de procédure pénale les traite, et de conduire à la fin les personnes sur qui portent les charges d'accusation devant le parquet, au cas où, du point de vue de la police, il serait établi que ces personnes sont effectivement coupables. Alors, le parquet, c'est l'organe poursuivant de l'État. C'est par le parquet que la République maintient l'ordre public en utilisant la police, mais c'est aussi par le parquet que l'État porte des accusations contre des accusés devant le tribunal. Et donc, dès que les faits sont établis du point de vue de la police et du point de vue du parquet, le parquet fait ce qu'on appelle une requête aux fins de fixation de l'affaire devant le tribunal et donc envoie le dossier devant le tribunal pour que le tribunal juge et éventuellement condamne les personnes qui sont accusées. Voilà à peu près la chaîne pénale, comme on l'a dit. Ben évidemment, elle peut être élargie jusque à la prison, où le condamné va purger sa peine aux fins de répondre justement des faits qui sont mis à sa charge. Alors,
voilà, avant de répondre aux autres questions, je vais rapidement prendre quelques questions sur la page Facebook de Capi Service. Ali Badibanga Watibata nous dit: l'affaire civile implique la réparation, donc le dommage-intérêt et non une répression pénale. Si cette affaire civile n'en résulte pas une action pénale, tandis que celle une action pénale regorge les deux à la fois, c'est-à-dire la répression pénale et les dommages et intérêts. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
La réponse est en partie vraie, mais pour ce qui est de pénal, en fait, on peut avoir un procès pénal où il n'y a pas de partie civile. Et il n'y a de partie civile que lorsqu'une partie, effectivement, un individu ou une société une structure vient se constituer en disant au juge qu'elle a été préjudiciée par le fait pénal qui est poursuivi. En ce moment-là, Par exemple, on a aujourd'hui des procès où le parquet poursuit rien que pour les faits pénaux et il n'y a personne d'autre qui vient revendiquer pour avoir été victimisé par ces faits. Et donc, lorsque il parle de la différence, il doit aussi faire cette nuance parce que il existe des procès pénaux sans partie civile. Mais chaque fois qu'il y aura une partie civile, le tribunal sera aussi obligé d'examiner les revendications civiles et si elles sont fondées et établies, d'octroyer des réparations civiles à cet individu ou à cette structure qui s'est constituée partie civile à charge de l'infracteur.
Bien. Il y a Ingénieur Mangoyo qui a parlé d'une affaire de remboursement des crédits. Est-ce que le civil annule le pénal? Ça, c'était sa dernière question.
Il n'existe pas de principe selon lequel le civil annulerait le pénal. Mais de toute façon, c'est deux matières différentes qui peuvent avoir quelques conjonctions lorsque certains faits, même relevant des contrats, par exemple, qui sont des faits civils, sont constitutifs d'infractions. Mais a priori, parce qu'il a parlé d'un crédit bail, le crédit bail relève exclusivement du domaine civil. Et la personne qui se retrouve au bout à la fin, sans avoir été payée par ceux qui lui doivent de l'argent, a toute la possibilité de se pourvoir devant le juge et de présenter ses prétentions de droit pour que le juge les examine et statue dessus. Si elles sont établies, le juge prononcera des réparations, ordonnera le paiement de ce qui est dû et prononcera des réparations au cas où cette absence de réparation, cette absence de paiement ou ces paiements tardifs aura créé des préjudices à l'endroit du créancier.
Oui.
En ce moment-là, le créancier, s'il obtient la condamnation des personnes qui lui sont débitrices, il aura le choix de passer aux modalités de recouvrement qui sont prévues par la loi. Et il peut aller jusqu'à demander au tribunal de réaliser, de faire vendre un certain nombre de ses biens, d'obtenir la saisie de certains biens, de les faire vendre pour se faire payer dessus. Et c'est ça même la philosophie du législateur de 73, tel qu'il s'est revu, amélioré, amendé en 80. En matière de crédit, il n'y a pas de dette parce que le patrimoine présent et à venir de chaque débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Et donc ces créanciers peuvent venir devant la justice et montrer devant le juge que cette personne qui ne paye pas a quand même des biens sur lesquels ils peuvent se faire payer, obtenir leur saisie et éventuellement leur vente.
Bien. Pasteur Patrice Kalala nous dit, est-ce que plusieurs affaires civiles peuvent impacter le casier judiciaire d'un citoyen? Est-ce que la loi prévoit un arrangement à l'amiable dans une affaire civile déjà au parquet?
Déjà, l'affaire civile ne peut pas être en principe portée devant le parquet. Mais par principe, le parquet n'a pas de compétence particulière. Toute personne qui a une accusation qu'elle voudrait porter à la connaissance de l'autorité peut aller jusqu'au parquet. C'est au parquet de constater que c'est un fait civil et de ranger le dossier dans ce qu'on appelle le registre de faits non infractionnels qu'on appelle RFNI. Au parquet, ça existe. Et donc, si jamais les parties veulent résoudre leurs problèmes amiablement, ils peuvent demander aussi au parquet qui est encore en train d'instruire le dossier de les aider en tant qu'autorité publique à être un amiable conciliateur pour que justement elle résolve ce problème. Mais le parquet peut aussi demander simplement à ces parties, peut les renvoyer de fin de toute poursuite pour que justement elles puissent faire cet arrangement entre elles-mêmes. Mais il est préférable évidemment que l'autorité du parquet, le magistrat qui instruit le dossier, préside à cette conciliation amiable pour le maintien de l'ordre public.
Bien, on va accueillir Papi Kalema de Kindu. Nous parlons aujourd'hui de la différence entre une affaire civile et une affaire pénale dans Okapi Service. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Radio Okapi vous convie à des balades dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le lundi à 14h15.
Quelle est la différence entre une affaire civile et une affaire pénale? Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, est l'invité d'Okapi Service. Nous allons accueillir Papi Kalema de Kindu et Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Papi, bonjour. Papi, bonjour. Veuillez réduire le volume de votre radio, Papi Kalema.
Bonjour.
Vous êtes à côté d'une radio, s'il vous plaît. Veuillez vous en éloigner. D'accord, bonjour. Quelle est votre question?
Oui, je me suis déjà éloigné.
D'accord, quelle est votre question?
Ok, merci. Je voulais juste savoir si le fait d'emprunter une somme en banque à la mer est une infraction. Et si telle est la question, cette infraction sera considérée dans quel domaine? Est-ce que c'est dans les domaines civils ou dans les domaines pénals? Pourquoi j'ai dit ça? Mon oncle a été calomnié par un sage du quartier. Mon oncle, lorsqu'il y a eu des détournements de fonds dans la coopérative d'épargne du Congo, Copec Imara, ici au Maniema,
oui.
Il a pu juger aller laisser son argent à un sage du quartier. Et ce sage-là lui a fait un document disant que moi, tel, j'accepte de garder la somme de telle personne. Et lorsqu'il en aura besoin, il viendra prendre ce dont il y a des droits. Mais lorsque il y a eu des problèmes, mon oncle voulait récupérer sa somme, mais ce sage-là avait déjà donné cette somme à une autre personne. Après un mois, deux mois, mon oncle était fâché, il est allé se plaindre en justice. Et ce type lui a calomnié à la justice disant qu'il m'a fait emprunter cette somme. Ce n'était pas pour garder, mais il m'a fait prêter en banque à la mer. Et mon oncle a purgé la peine d'une année à la prison centrale de Kindu. Donc moi, je voulais demander si le fait d'emprunter l'argent en banque à la mer, c'est une infraction.
Civile ou pénale?
Dans quel domaine?
D'accord.
Domaine pénal ou civil.
Il y a même une question de Jonas Mbombo sur Facebook dans ce sens. Il dit, qu'est-ce que l'invité peut nous dire en ce qui concerne les systèmes de banque Lambert, communément appelé Ekotama, ici dans la ville de Mbandaka? C'est-à-dire, on peut classer ces systèmes entre affaires civiles et pénal, Jonas Mombo, depuis la ville de Mbandaka. On va accueillir Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Jérémy, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour également à l'expert avec vous sur le plateau.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voudrais juste dire sur ce point, parce que je trouve que notre pays regorge assez d'acteurs juridiques, mais cependant, il y a beaucoup de choses qui semblent bloquer cet appareil judiciaire. Il y a beaucoup de choses à revoir. On assiste à une marque de chevauchement dans les actions des acteurs. D'une part, ceux qui sont censés réglementer les affaires pénales et d'autre part, ceux qui sont censés réglementer les affaires dites civiles. Vous allez vous rendre compte, de telles situations se passent quand on est en ville, ça marche un peu bien. Mais quand vous allez un peu à l'extérieur, ou soit à l'intérieur, voyez un peu ce qui se passe. On assiste à... Je ne sais pas, le législateur doit légiférer là-dessus et donc séparer un peu la répartition des tâches des uns de ceux qui sont censés diriger. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un monsieur qui se lève le matin, un individu, et qui se substitue à un agent donc de justice. Et il règle les problèmes là où il se trouve, et il y a des peines qui s'ensuivent. Est-ce que réellement, j'aimerais dire, avec ce nouveau gouvernement qui va venir, il fallait un peu mettre les toilettages et mettre un peu de l'eau dans la boutique dans ce secteur pour que les choses redémarrent normalement. Et je voudrais aussi poser la question à l'invité avec vous. Vous avez une banque, par exemple, X. Est-ce qu'une banque, nous avons dit, pour une affaire de banque, c'est deux personnes qui entrent en contact et ils trouvent une solution pour les deux parties. Mais est-ce que la banque peut se donner les kilos de pouvoir créer une marge de garantie pour un crédit contracté sans l'aval du client qui est là? Est-ce que la banque peut se permettre donc de créer ce qu'on appelle les retenues, ça veut dire l'épargne forcée, sans en aviser les clients? Est-ce que c'est faisable? Ça, c'est un point. Et je voudrais aussi qu'il me donne un peu une démarcation
entre les affaires qui concernent les commerces. Hein, donc,
d'accord, Jérémy Mwamba, on n'a plus beaucoup de temps. Maître Charles, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement par rapport à tout cela?
Pour conclure, je vois que la question de crédit est revenue tout le temps. Mmh. Mais comme je le disais tantôt, la dette peut être constatée ultérieurement, alors qu'en amont, les parties ont convenu d'autres choses. Et le cas pour la personne qui a remis de l'argent à un sage...
Oui. Maître Charles, on aura l'occasion d'y revenir. Prochainement, on n'a plus beaucoup de temps. Merci de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons terme à cette émission. À la prochaine.